Pascal Pic est notre invité depuis 7h40 pour parler de cette opération Résurrection en Russie. Des scientifiques qui ont ramené à la vie de minuscules vers coincés dans les glaces sibériennes depuis 40 000 ans. Alors après le ver, la chèvre sauvage des Pyrénées, la tourte voyageuse, le mammouth et l'homme, on se rapproche petit à petit de la fiction et du rêve transhumaniste. Vous nous parliez, Pascal Pic, tout à l'heure de la cryogénisation de ces vers. C'est à la portée des hommes. Aujourd'hui, combien de personnes, à votre avis, se sont fait trempés dans une solution glacée à base d'azote et sont en train d'y dormir.
On n'espère pas. Mais c'est arrivé malheureusement ce que vous dites. Votre petite erreur de présentation correspond à une réalité dramatique parce que cette histoire-là commence déjà dans les années 50 où il y a eu des entreprises qui ont proposé en effet de cryogéniser donc des corps. Sauf que malheureusement l'entreprise a fait faillite et on a tout débranché. C'est absolument horrible, je suis désolé, mais ça s'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, un des grands protagonistes parmi les penseurs, parce qu'il y a vraiment une réflexion philosophique assez intéressante autour des différentes mouvances du transhumanisme. C'est un mouvement quand même qui est assez diversifié. Monsieur Nick Bostrom est, je crois, le PDG, en tout cas un membre très important dans le conseil d'administration d'une entreprise au niveau international qui participe à la cryogénisation. Alors ça, c'est pas très courant en Europe. Par contre, aux États-Unis, c'est des milliers de personnes. Alors il est très clair que cette histoire de vers de terre, enfin en tout cas de petits vers, qui a été donc ramené à la vie, va certainement susciter
des vocations.
Un nouvel engouement pour justement se cryogéniser.
Les laboratoires qui sont sur les rangs, donc il y en a plusieurs, des entreprises aux États-Unis. Ouais. On connaît même les tarifs, par exemple, chez Alcor. Ouais, on annonce cryogéniser votre tête pour 75 000 euros, 188 000 pour le corps entier. Ouais. Mais ça sert à quoi de se faire cryogéniser la tête seulement?
Ben, on voit un petit peu certains éléments qu'on retrouve dans notre philosophie pour le dualisme. Donc la différence entre le corps et l'esprit. Alors ça marchera pas parce que si les gens veulent donner leur tête, ça va être un vrai problème parce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux avancées des neurosciences et des sciences cognitives, qu'une partie de notre pensée, même de notre créativité, est liée à la marche, est liée à la façon, est liée à ce qu'on mange. Alors évidemment, les Américains mangent mal et marchent peu. Je suis un peu caricatural, pardonnez-moi, mais c'est complètement aberrant. Cependant, nous parlions des Russes. Eh bien, en Russie, un monsieur qui s'appelle Zykov, un jeune milliardaire russe, qui lui est très impliqué, comme le sont une partie des milliardaires américains du numérique dans ces questions-là, mais d'une autre façon. Et là, on retrouve cette idée qu'on a dans les films Transcendance. J'aime bien si les films, les gens les voient en général. Ils disent moins, malheureusement.
Alors,
et là, et l'idée, c'est de transférer esprit, notre mémoire et tout ce qu'on a vécu dans un ordinateur. Donc, c'est-à-dire passer d'un corps basé sur la chimie du carbone à une structure basée sur la chimie et la physique du silicium. Donc là, attendez, en anthropologie, ça s'appelle la transmutation des âmes, soyons très clairs. Sauf que là, c'est matinée de technologie et on fait croire à cela. Mais en effet, j'ai lu un papier récemment qui était publié dans le Courrier international, où on s'aperçoit que les perspectives du transhumanisme, Laurent Alexandre en parle très bien en France, des gens qui disent « Ah ben attendez, sans parler de vie éternelle, j'ai une maladie qui est incurable dans l'état actuel des connaissances en médecine. » Pourquoi pas envisager, si je suis condamné, de me faire cryogéniser et que peut-être dans 50 ans, 60 ans, on aura la possibilité de réveiller mon corps et de le soigner puisqu'on aura les solutions à cette époque-là. Je trouve pas ça complètement aberrant, sauf que je doute que ça marche, mais en attendant, l'idée est intéressante.
Au Royaume-Uni, où la pratique est interdite, mais une adolescente de 14 ans qui souffrait d'un cancer en phase terminale avait obtenu en 2016 le droit de se faire cryogéniser. C'est donc une question que la science pose à la loi.
Exactement. Il faut savoir qu'en fait, ce qu'on connaît aujourd'hui en économie, avec ces gens qui bousculent nos habitudes, ce qu'on appelle l'ubérisation donc de l'économie, ils sont à la limite de la réglementation. Donc aujourd'hui, on bloque tout ça, mais ça va changer. Donc il est très clair qu'on n'a jamais eu autant de comités d'éthique dans le monde, notamment en France, en Europe, mais c'est partout comme cela. Parce qu'on voit bien que sur ces questions de la vie, de est-ce que le corps m'appartient ou est-ce qu'une partie de mon corps peut être traitée par d'autres, etc., sont des questions fondamentales donc qui sont pas d'aujourd'hui mais qui sont réactivées de manière extrêmement intense par ces nouvelles possibilités, tout en sachant que tout de même, il y a beaucoup d'affirmations qui sont loin quand même d'être avérées. Par exemple, sur vivre plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années, affirmer que la personne qui vivra 1000 ans existe déjà, ça c'est difficile à concevoir aujourd'hui. Donc tout ça, évidemment, on comprend que chez des personnes qui sont fragilisées, comme vous venez de citer, que l'on puisse envisager ce genre de possibilités. Mais attendez, c'est quand même on en quand même encore très très loin capacités techniques, médicales, de faire cela.
Voilà, vous vous intéressez
de près. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. Hein.
Vous y intéressez de près justement, puisque c'est l'objet de votre dernier livre, Le Nouvel Âge de l'Humanité, les défis du transhumanisme expliqué à une lycéenne. Je ne sais pas si, Pascal Pic, vous avez lu ce matin dans Libération la tribune de Jacques Testard, le père scientifique du premier bébé éprouvette, qui dit, alors qu'outre le fait qu'en étant immortel, on se ferait sacrément suer, comme vous le disiez vous-même tout à l'heure, eh bien vaincre la mort, c'est scientifiquement impossible, et c'est ce que vous confirmez ce matin. Et Jacques Testard souligne le paradoxe d'une société qui rêve d'immortalité alors que la durée de vie en bonne santé ne cesse de diminuer, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.
Alors, on est face à un paradoxe. C'est ce que j'explique dans ce dialogue. Alors, pourquoi avoir pris une lycéenne qui est africaine d'ailleurs, parce qu'elle m'intercepte à travers mon site, parce que j'ai un site bien sûr, et elle dit voilà, peut-être que moi je suis celle qui est promise parmi d'autres et d'autres à une vie pluricentenaire. Donc, et puis nos origines sont africaines, ça vous le savez. La chose intéressante est ceci: la génération des baby boomers. Ben, je suis tout à fait limite supérieure, j'espère que ça s'entend. Mais en attendant, c'est une génération, pour les pays les plus développés, qui a connu une évolution comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Avec, à partir des années 60, et déjà il y avait Aretha Franklin, vous vous rendez compte, hein, qui nous a complètement accompagnés. Il y avait donc effectivement un progrès extraordinaire sur la médecine, l'éducation. On appelle ça la loi de Flynn. James Flynn est un psychologue qui a montré avec ses équipes, bien sûr, que le QI, on peut dire ce qu'on veut derrière les critères, mais en tout cas le QI a augmenté comme jamais entre les années 60 et les années 90. Les gens qui étaient actifs du temps des Rolling Stones, d'Aretha Franklin, franchement, on m'aurait dit quand j'étais jeune que, comme j'étais récemment au concert des Rolling Stones à 75 ans, faut voir les papy rock, les mecs qui sont sur scène, ils sont absolument hallucinants. J'étais à Marseille, qu'on l'a dit tout à l'heure, John Bay 77 ans, Santana 71 ans. Je veux dire, personne n'aurait imaginé ça il y a 30 ans ou 40 ans. Ces gens-là nous ont accompagnés. Et donc là, on n'a jamais aussi bien vécu en moyenne, j'entends bien, entends bien. Et là, on est en train de nous dire, oui, mais attendez, la porte de sortie se profile.
Beaucoup plus tôt qu'avant.
Pas beaucoup plus tôt qu'avant. Si on a aussi bien vécu à 60 ans, 70 ans, voire 80 ans, est-ce que, justement, la génération que je représente ne va pas se dire, attendez, on n'a jamais aussi bien vécu, on a envie que ça continue, que ce soit plus ou moins conscient. Donc, les petites sirènes comme ça du transhumanisme, vous voyez, sur faire reculer la mort, sont extrêmement sensibles. C'est complètement paradoxal, parce que il y a encore 150 ans, l'espérance de vie, quand même, était de 30, 40 ans, et la mort était était intégrée dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, on ne la voit plus. Donc, vous voyez, c'est paradoxe. Maintenant, l'autre aspect, ce qu'on nous promet, effectivement, peut-être une vie... alors, on ne dit pas immortelle, on dit amortelle, parce qu'il y a la contingence. C'est-à-dire, la mortalité, ça veut dire que peut-être que vous êtes immortel potentiellement, mais si vous traversez pas la rue en faisant attention, ça risque d'être assez court. Donc, on parle d'immortalité. Et là, en effet, on s'aperçoit que pour une grande partie de la population qui est croissante, ce que j'appelle le syndrome de la planète des singes, on a une perte, effectivement, de QI, une perte de libido, une perte de vitalité physique, une perte de robustesse physique et évidemment une chute de l'espérance de vie dans les populations qui sont les plus défavorisées. Alors attendez, c'est pas entre pays, c'est pas comme ce qu'on a vécu il y a 50 ans ou 40 ans. Là, c'est au sein de chaque pays, et notamment les États-Unis. En Europe, pour l'instant, ça tient parce qu'on a quand même un programme social.
Avec des nouvelles maladies, des perturbateurs endocriniens, exactement, des nouveaux virus, des maladies chroniques qui se développent. Mmh. Jacques Testard écrit, c'est quand notre civilisation connaît une régression directement due aux excès du capitalisme, qu'on nous dit que grâce aux nouvelles technologies produites par ce même capitalisme, on va tout surmonter. Vous, Pascal Pic, vous défendez la thèse selon laquelle l'homme cause sa propre disparition parce que la disparition des autres espèces annonce la sienne.
Oui, c'est ça, c'est cette coévolution qu'on évoque évoquais tout à l'heure, imaginons qu'on puisse restituer un individu complexe, vertébré, mammouth ou la chèvre que vous évoquiez. Maintenant, l'autre question de l'espèce, donc qu'il puisse se reproduire, ça c'est encore une autre affaire, et ensuite un écosystème. Donc nous avons coévolué. Et la chose importante, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, trop d'asepsie, qui élimine donc les agents pathogènes, etc., avec lesquels nous avons coévolué, laisse la porte ouverte, comme les maladies nosocomiales, à d'autres organismes qui, eux, jusqu'à présent, étaient barrés pour nous infecter.
Donc il faut arrêter de se laver les mains quand on est petit ou pas?
Alors, j'aime bien dire ça, vous savez, il va falloir réapprendre à nos enfants à passer à table sans se laver les mains, mais sur ce coup-là, on va y arriver. Mais il ne s'agit pas tout à fait de ça, évidemment, mais il est très clair qu'il va falloir qu'on repense à ces systèmes de coévolution. Et tout à l'heure, vous l'avez suggéré, d'ailleurs, dans un écosystème, quand une espèce disparaît, c'est pas que l'espèce, c'est tout un tissu de relations extrêmement complexes qui s'écroule et qu'on ne peut pas reconstituer, parce que ça correspond à des centaines de milliers d'années d'évolution. Maintenant, une remarque par rapport à M. Testard, pour lequel j'ai la plus grande admiration et le plus grand respect, bien évidemment. Je crois que c'est un peu court d'accuser le capitalisme, parce que je crois que les communistes n'ont pas fait mieux en leur temps. Je défends pas le capitalisme, en l'occurrence, mais il est vrai que les grandes entreprises capitalistes sont à la manœuvre là-dessus, donc les entreprises du numérique, mais néanmoins se limiter à ce genre de remarques est un peu court pour avoir les bonnes réponses.
Bon, vous auriez pu en débattre, mais Jacques Testard n'est pas là. Je voulais peut-être conclure cet entretien par ce dossier-là qui est publié aujourd'hui dans le Figaro sur une pratique qui n'est pas autorisée en France, les tests ADN, le décryptage des gènes pour mieux connaître nos origines et même tenter de découvrir qui sont nos géniteurs. Le cas échéant, 100 000 Français auraient commandé des kits à l'étranger à partir de 49 € le kit aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez de ces événements de Facebook, de la génétique, avec des sites qui font croiser les résultats les uns avec les autres?
Bon, de toute façon, l'interdire ne sert strictement à rien, si ce n'est que ça correspond évidemment à la nécessité d'avoir donc des considérations éthiques autour de ça. Ça, c'est la première chose. D'un point de vue anthropologique, je suis tout à fait surpris qu'aujourd'hui, que des personnes qui ont été éduquées par des parents adoptifs d'une manière ou d'une autre, aillent aller rechercher leurs origines génétiques. C'est quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qui a été l'évolution des sociétés humaines, où nous avons deux choses extrêmement importantes qui font que nous sommes des hommes, Lévi-Strauss le rappelle, qui sont la filiation et la parenté.
Mais ça leur appartient, c'est un autre débat, vous êtes scientifique.
Non, c'est sympa. Je veux dire que la parenté, c'est-à-dire de qui je suis l'enfant, à qui je peux me marier ou pas. La filiation, c'est la transmission donc des statuts sociaux, de la qualité, du nom, etc., etc. Et aujourd'hui, de revenir à une espèce de généalogie du gène, je trouve que c'est un retour absolument ahurissant face à ce qu'était l'anthropologie, ce qui fait le propre de l'homme.
Et ça peut pas vous intéresser comme paléo-anthropologue, justement, d'en savoir plus sur nos origines, les migrations,
peut-être? Bien sûr, mais ça, c'est une source de connaissance absolument extraordinaire. La génétique nous a apporté énormément de choses. Maintenant, on arrive vers une médecine qu'on appelle une médecine de santé, non plus une médecine de soins, qu'on appelle la médecine 4P, où là, un des P signifie donc la médecine prédictive, et là, ça va être lié à la capacité, évidemment, de détecter les gènes qui ont un déterminisme fort pour des maladies qu'on connaît à travers le téléthon, par exemple. Donc, ça s'appelle de l'eugénisme positif. Je sais que le terme fait peur, en raison de ce qui s'est passé avec les nazis, mais là, on parle vraiment d'eugénisme positif. Julian Huxley, le premier secrétaire général de l'UNESCO que j'évoque, lui qui a inventé le terme de transhumanisme, évoquait lui un eugénisme de gauche qui correspond à un grand projet d'améliorer donc l'espèce humaine. C'est toujours très dangereux tout cela, mais maintenant, soyons très clairs, nous en tant que parents, si nous avions la capacité de savoir qu'un enfant puisse avoir une maladie incurable dans l'état actuel de la science et que nous puissions faire un choix, ce qu'on appelle le test préimplantatoire, on y est déjà. Maintenant, le vrai problème, c'est d'éliminer, d'avoir des enfants avec les yeux bleus, etc. Ça, par contre, c'est absolument inconcevable parce que ce serait une perte de diversité génétique. Vous voyez, c'est trop, très compliqué d'aller entre les deux.
Merci Pascal Pic d'être venu dans notre studio ce matin. Le nouvel âge de l'humanité, les défis du transhumanisme expliqués à une lycéenne, c'est publié aux éditions Alary. Et c'est tout récent, c'était en mai 2018. Vous citiez tout à l'heure Hibernatus pour évoquer la cryogénisation humaine. Vous vous rappelez Woody et les robots de Woody Allen?
Oui, ah, ça, absolument, c'est la meilleure de l'année. Génial. Mon docteur m'a dit que je serais sur pied dans 5 jours. Et vous voulez me faire croire qu'il s'est trompé de 199 ans?
Évidemment, c'est dur à admettre, mais vous devez considérer cette expérience comme un miracle de la science.
Oui, et bien pour moi, un miracle de la science, c'est d'aller à l'hôpital pour une petite opération sans avoir 2400 mois de loyer en retard à payer en rentrant. Là, oui, parlons de miracle. Ouais. Votre truc, c'est un enculage cosmique, un point c'est tout. Et c'est vrai ça? Où suis-je, moi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis mon opération? Où sont tous mes amis?
Vous devez comprendre que toutes les personnes que vous avez connues sont mortes, et cela depuis 200 ans.
Pourquoi? pourquoi ? Ils étaient tous végétariens.
Où il mangeait du riz bio dans la version française. Je crois qu'on va laisser Aretha Franklin là où elle est. On va faire dans un instant le portrait d'une Natural Woman, titre de la biographie d'Aretha Franklin publiée par celui qui sera notre invité, l'historien de la culture noire américaine, Sébastien Danchin. Mais d'abord à 8h30, merci encore Pascal Pic.